Ça va partir.
Au fil de l'eau, revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez!
Marc-Paul, je suis votre miroir.
Bonjour, le miroir.
En quelle année vous êtes né ?
1951.
Un jeune homme. Quel est votre signe ?
Taureau.
Tu es barde, mais c'est quoi être barde en 2023 ?
Oh, plein de choses, mais c'est déjà une vie de pirate.
Quand on est pirate, il faut être acrobate. Et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Mais c'est quoi être barde en 2023?
Au miroir, être barde, c'est toute une histoire. D'abord, je pense qu'une époque qui m'a séduit, qui m'emprunte depuis tout le temps, c'est l'époque celtique, les Gaulois, voilà, bien sûr, n'est pas étranger la lecture d'Obélix et Astérix et du barde aussi, mais ça fait partie de l'imagerie. Alors, barde, c'est une rencontre que je peux mettre en 1991. Bon, j'ai toujours été dans la forêt et j'ai rencontré un forestier qui s'appelait Yves, qui était à Gandelbruch, et ce forestier était druide. J'étais impressionné qu'en 91, il y a encore des druides dans nos forêts vosgiennes et tout. Donc, je me suis un peu passionné de ça. Bien sûr, des effets, des ondes telluriques, des pierres relevées, qu'on appelle des mégalithes, les menhirs, les lieux de soins. Je me suis aperçu qu'il y avait une richesse en Alsace énorme, du nord de l'Alsace jusqu'au sud de l'Alsace. On connaît bien sûr le mur païen, on connaît bien sûr le mur du Frankenbourg, on connaît bien sûr le Tenchel, mais il y a Saverne, au col de Saverne, il y a un peu partout. Il y avait le mont Molkirch qu'on a découvert, Molkirch qui s'appelle qui est le chemin des demoiselles de pierre, voilà, avec un lieu de soins extraordinaire. Et passionné comme ça, il m'a dit tu vas être mon apprenti. Et j'ai dit tiens, ma apprenti druide, ça peut le faire, ça, tu vois, c'est intéressant, voilà. Mais c'est beaucoup d'études. On dit que pour être druide, il faut 20 ans. Pour tout comprendre de la nature, vu que c'est une formation uniquement par l'oralité, il n'y a pas d'écrit, et c'est que de la transmission, voilà, qui a été transmis, et qui est transmis depuis la nuit des temps, parce qu'il faut toujours savoir que ça a toujours existé. Et j'étais un mauvais apprenti, donc je suis devenu barde. Ça veut dire un barde, c'est un messager, c'est un colporteur, c'est celui qui transportait les nouvelles, qui donnait les informations, qui avait peut-être quelques astuces dans certaines plantes médicinales pour soulager les maux, pour pas que les gens se déplacent sur les lieux de soins, parce que les druides étaient très loin des lieux de toutes ces tribus, voilà. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle définition d'être barde dans ces époques-là. Donc c'est vrai que depuis une dizaine d'années, je me suis attribué d'une façon collégiale lors d'un séminaire de druidique où j'étais en témoin et j'ai demandé l'autorisation à un grand maître druide si je pouvais m'affubler du titre de barde et j'ai été consacré comme barde. Voilà. Alors, barde, aujourd'hui, bien sûr, c'est d'abord une connaissance de la forêt. C'est surtout une connaissance de la forêt. Ça veut dire pouvoir reconnaître tous ces êtres et tous les écosystèmes qu'il y a dans une forêt. Et une forêt, il y a énormément d'écosystèmes, si on savait la richesse qu'on a un peu perdue, que nos anciens savaient, voilà. Il y a aussi être un peu protecteur, ça veut dire qu'aujourd'hui la forêt est en souffrance climatique. Non d'exploitation, parce que je pense qu'il y a un travail quand même assez remarquable des instances aussi bien communales qu'administratives, dont l'ONF est privé, qui sont très soucieux de certaines choses, car il faut savoir que la demande industrielle a énormément baissé aussi. Il n'y a plus de papeterie, le bois, je dirais, de l'ameublement est moins demandé car il n'y a plus de fabrique de meubles, voilà. Il y a bien sûr les bois de construction, tout le gros œuvre, ça c'est toujours très demandé. S'il y a quand même quelques inquiétudes actuellement, si on se promène en ce moment en forêt et qu'on regarde un versant, et j'invite tous les auditeurs d'aller regarder cela, on s'aperçoit que les feuillus n'ont plus de feuilles, donc c'est bien, on voit d'un coup dans une tache verte, on s'aperçoit des taches marron, et on s'aperçoit que c'est des résineux. Et ces résineux, ce n'est pas des mélèzes, c'est des épicéas. Donc la mort de l'épicéa, qui était une des essences phares, je dirais, de quasiment 300 ans, va disparaître d'ici une quinzaine d'années. Il n'y aura plus d'épicéa dans nos forêts. Alors pourquoi plus d'épicéa? Peut-être plus de sapins non plus, parce qu'ils sont aussi touchés, moins en ce moment, mais c'est surtout les épicéas. Pourquoi? Ben, c'est à l'époque, on parlait des pluies acides. On citait toujours la forêt noire, les pluies acides de la forêt noire, des hauts fourneaux de la région de la Moselle, qui envoyaient les nuages par les vents d'ouest sur ces contreforts des massifs. Alors peut-être, oui, c'est vrai qu'actuellement, la forêt noire est de revenu très boisée. Et on ne voit plus ces cimes dénudées. Mais ils n'ont pas replanté des épicéas, eux. Ils ont replanté des normannes, qui est une essence qui vient d'Anatolie et qui résiste plus aux terres chaudes. Donc c'est une histoire d'un scolype qui s'appelle le bostrich, qui est un petit parasite terrible, qui se met dans l'écorce et qui tue le sapin, qui le vide de sa sève, l'épicéa, qui tue l'épicéa, qui le tue. Et on pensait que c'était les grands froids qui tuaient ces parasites. C'est faux. C'est les pluies. C'est l'humidité. Ils s'étouffent dans l'eau. Et comme depuis des années, nous n'avons plus d'eau, de grandes pluies qui font que la forêt est plus... Elle est sec. Elle est très sec, la forêt, c'est sec. Ils peuvent se développer. Deuxième chose, il y a eu un choix là, de l'ONF. Avant, on brûlait. Les forestiers brûlaient, ils coupaient un sapin, ils coupaient un épicéa, ils coupaient un résineux, ils mettaient le branchage et ils brûlaient en forêt, il y avait des feux, ils brûlaient, voilà. Parce qu'on a, il y a des ingénieurs qui ont dit non, il faut faire de l'humus. Donc on coupe les branchages, on coupe tout, on les met sur des tas. Quand vous vous promenez en forêt, vous voyez que les forêts ne sont plus propres, il y a plein de tas, il y a plein de branches qui traînent quand on se promène en loin. Et bien là, c'est des nids à profération du bostrich, parce que là, il y trouve tout ce qu'il faut pour s'étendre et il attaque les autres arbres et l'ensemble des choses. Alors, nous allons connaître une très grande transformation de la forêt dans les quelques années, mais d'abord, on va écouter un morceau.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.
Yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
du coup, Marc-Paul, comment on peut sauver la forêt ?
Ah, ça, c'est une belle question. Comment on peut la sauver ? Ben, déjà, elle n'a pas la même notion du temps que nous. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est déjà des décennies que ça a été programmé. Donc, ce n'est pas en une année ou en coup de correcteur on peut faire cela. Il y a plein d'études actuellement. On sait qu'il y a un changement climatique indéniable et que peut-être nos essences que nous avons ne sont pas adaptées à résister à ces différences de température qui sont en train de se passer. Juste pour savoir un petit peu, quand on se promène en forêt en été, on s'aperçoit qu'il y a une différence de température. J'éveille toujours ce sol. C'est la meilleure climatisation que nous avons, même dans le sens inversé, parce que c'est une climatisation inversée. En été, vous avez peut-être un 30 ou un 35 degrés extérieur de la forêt. Vous rentrez à l'intérieur et vous êtes à 28 ou à 26 degrés. Donc il y a une grande différence. C'est dû à l'humidité, et ça j'expliquerai après. Parce que la nuit, si vous dormez en forêt, vous allez vous apercevoir que la température extérieure peut descendre à 20 degrés ou 19 degrés, mais elle restera à 26 degrés ou à 25 degrés en forêt. Donc elle garde la chaleur. C'est inversé aussi. Alors c'est dû bien sûr que c'est un système inversé à nous, ça veut dire que il pompe de l'eau, nous on a besoin d'eau, mais lui il pompe de l'eau dans la nappe, dans la roche, dans la terre, il pompe de l'eau, l'arbre, il le fait monter dans la sève, et ça monte dans la photo de la feuille, et dans la feuille il y a l'évaporation par rapport à la photosynthèse, c'est humus qui fait transporter le carbone en oxygène, c'est-à-dire qu'il avale le carbone, il transforme de l'oxygène, et ces particules d'humidité font que c'est tempéré, et c'est un espèce de grand bruminisateur que la forêt a, et qui nous permet d'être bien là-dessus. Alors aujourd'hui, les essences que nous avons, les hêtres souffrent énormément, si vous le voyez aussi, parce qu'on voit que les écorces sont en train de se décaler, les chênes sont en souffrance. Un chêne comme ça, grosso modo, c'est 350 litres à 600 litres selon sa demande par jour, hein, qui pompe. Hein. Un hêtre, c'est 280 litres, on ne s'en imagine pas le nombre de... Donc vous imaginez comme la forêt peut être... Elle souffre actuellement terriblement de ça. Et on sait que le coût d'exploitation par rapport au coût de la vente, c'est aussi parce qu'on est dans des rapports économiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un épicéa qui est mort, faire venir un bûcheron, le couper, le débarder et l'amener à la scierie où il n'y a pas de valeur pour faire de la plaquette ou du pellé, ça n'intéresse personne. Donc, qui va exploiter tout ça ? Et c'est un rapport économique par rapport à l'achat et la vente et l'offre et la demande. Alors on sait qu'on doit faire des choses, alors actuellement il y a des plantations, je dirais, à l'écart du public, qui sont bien, hein, où on essaye des essences diverses et variées, des eucalyptus, le Norman, mais aussi d'autres essences résineux et tout. On fait des tests, l'ONF est en train vraiment de travailler là-dessus avec des organismes pour réinventer la forêt du troisième millénaire, que je ne verrai pas. Et que moi, personnellement, je m'aperçois qu'actuellement, même si aujourd'hui, la forêt en France s'agrandit, car on a plus de forêts qu'il y a 200 ans au niveau du territoire national, elle est en souffrance. Voilà. Donc, l'avenir de la forêt, c'est un grand point d'interrogation, comme l'avenir de tout actuellement.
Comment vous vous imaginez la forêt du troisième millénaire ?
C'est une belle question, ça. Comment j'imagine la forêt du troisième millénaire ? Je ne verrais pas une forêt d'eucalyptus, vous vous rendez compte, on sera en Australie, non ? Je ne sais pas. Il y a plein d'autres essences qu'on est en train de parler, des essences de pin de Californie, de choses comme ça. C'est un peu difficile, de toute façon, la nature a toujours su se régénérer elle-même. Et je pense que c'est pas l'homme qui peut changer la forêt, c'est la nature qui va se le faire tout seul. Regardez l'exemple, on dit toujours, vous laissez une friche industrielle, 10 ans après, vous avez déjà une forêt, vous avez du boulot, vous avez du houx, vous avez des charmes, vous avez des choses qui ont cassé le béton, qui ont envahi. Les végétaux sont très forts, ils seront là après nous. Ne vous inquiétez pas, si nous on disparaît en tant qu'humains, les végétaux seront toujours là, ils ont toujours été avant nous et ils seront toujours là. Donc il faut avoir de l'espoir. La nature est très forte.
Est-ce que vous formez des apprentis qui souhaitent devenir bardes?
Ah, miroir, ça c'est... Oui, c'est pertinent. Oui, je forme des apprentis. Mais on va écouter un deuxième titre, hein, parce que faut que je réfléchisse à la question.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Marc Paul, est-ce que vous formez des apprentis qui souhaitent devenir bardes?
Alors, oui. Alors, c'est un sujet qui est très important. D'abord, je rencontre des gens qui me posent la question, et comment on devient barde? Ben, je lui dis, écoute, si ça t'intéresse, je t'explique. Alors d'abord, il faut que je sente que la personne est un réel comportement vis-à-vis d'elle, la forêt. Ça veut dire on commence à toucher une connaissance, voilà, un intérêt. Alors nous sommes tous des cueilleurs-chasseurs, hein, donc aujourd'hui les gens qui vont aux champignons, ok, mais les gens qui vont à la cueillette en forêt, la forêt est nourricière, elle peut nourrir un tas de choses. Et s'il y a un peu le côté culinaire, en ramassant certaines plantes, comme la ronce, qui est une plante extraordinaire, ça peut être un goût d'asperge, ça peut avoir des confitures, ça peut être un condiment, c'est pas la ronce, comme l'ortie, voilà. Si je sens qu'il y a un intérêt, je dirais, de curiosité, car il faut faire jouer les sens, parce que pour être barde, c'est les cinq sens qui sont importants. L'observation, l'écoute, le goût, le toucher, c'est capital. On peut pas faire ça. Après, il peut y avoir une personne qui me dit, écoute, je suis plus intéressé, comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a un examen? Voilà. Alors, j'y annonce, il y a un cooptage, voilà. Donc, nous, on est quelques-uns. Alors, dans les Vosges, on se réunit en forêt, dans un lieu bien précis, et on présente le futur apprenti, hein, et il est questionné sur la connaissance, sur différence, sur son attitude, comment il voit les choses. Ça n'a rien à voir avec le druidisme, parce que le druidisme, c'est beaucoup plus complexe. C'est plutôt une attitude de colporter des informations, comment on peut transmettre des choses, son attention, comment il observe les choses. Et là, on vote. Alors, on vote très simplement. Il y a un sac qui passe, on a tous un caillou en poche. On met où le caillou ou on ne met pas le caillou. Et s'il y a le nombre de cailloux supérieur au nombre, si on est 5 et qu'il y a 3 cailloux, et ben, il devient barde. Et s'il n'y a que un caillou ou deux cailloux, il ne devient pas barde. Voilà, c'est simple. Alors, le type profil de candidat, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de jeunes. La jeunesse, je n'ai pas eu, quand je dis jeune, je dis en dessous de 30 ans, hein, même 40 ans. Hein, je n'ai pas aujourd'hui quelqu'un qui s'est identifié aussi bien masculin que féminin en disant j'ai envie d'être barde ou j'ai envie de faire ça. Non. Oui, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le dénuement. Ça veut dire que barde, il n'y a aucun gain, il n'y a rien. C'est donner à autre personne ta connaissance pour qu'elle partage la connaissance et qu'elle diffuse la connaissance à d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de naturopathes, mais je suis pour et contre, car je trouve qu'il y a à boire et à manger dans ça. Il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont un peu charlatans. Et c'est aussi le contrôle de l'esprit d'une certaine personne par la connaissance. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malsain quand, normalement, c'est le dénuement, on donne. C'est le principe même, on donne, c'est la générosité. Si la personne veut remercier, c'est autre chose. Le remerciement est autre chose que avoir, je dirais, un dénuement financier en disant « voilà, j'ai fait ça et je payais ça ». La deuxième chose que je dirais, j'ai beaucoup de femmes, par contre, actuellement, qui s'intéressent à ça, qui cherchent des voies. Alors, elles cherchent des voies, pourquoi ? Parce qu'en général, c'est des personnes qui ont, pas un certain âge, parce que je suis galant, mais qui sont dans la cinquantaine plus, voilà, qui ont un parcours de vie et qui sont en quête de spiritualité, en quête de tranquillité, en quête de partage, en quête de vraiment de communion avec la nature. Alors ça, on en identifie énormément. À travers la cueillette, beaucoup la cueillette, ça commence en général, les vrais clients, c'est des gens qui cueillent des plantes. Ça, c'est une des veines les plus prometteuses pour avoir des ovates, bardes, ovates, voilà, c'est pareil, féminin, voilà. Après, faut faire très attention, parce que très très vite, on peut tomber dans l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est encore autre chose. Moi, je ne suis pas dans l'ésotérisme. La nature, elle est pour tout le monde, elle est généreuse, elle nous fait du bien, et c'est simplement du bien qu'elle nous fait. En profiter de ses bienfaits, c'est facile. Il y a une certaine technique qui n'est pas compliquée, c'est surtout nous, à nous mettre à son diapason, et pas elle à se mettre à votre diapason, voilà. Mais si on sait faire ça, c'est parfait, voilà. C'est bien. Mais on va écouter... Je crois que ça en arrive à terme. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Oui, Marc-Paul.
Tu as envie d'être barde ?
Pourquoi pas ?
Oh, tu vois, déjà, c'est faux. C'est pas pourquoi pas. Oui, j'ai envie. Je veux dévorer la ronce et je veux manger de l'ortie et je veux connaître tous les secrets du hêtre ou du chêne. Je crois que l'émission est terminée. Mais si quelqu'un veut se manifester comme barde, il laisse sa candidature à Radio Judaïka. Et Pierre sera l'enregistrer et me la communiquer.
Ils battent les flots.